Dans ce dernier moment, faire cet exposé que nous vous avons annoncé sur l'Église du Seigneur. Et nous demanderons à Dieu de nous inspirer et de nous guider dans ce que nous avons à dire. Ô Dieu, dans cette dernière heure où tu veux nous préparer pour ce moment d'adoration et de louange, nous te demandons de nous inspirer. Nous te demandons de nous donner ta force, de nous donner ta clarté, ta lumière, ton âme, des cœurs réceptifs qui reçoivent ta parole et qui la laissent germer dans leur vie, afin qu'elles produisent tout le fruit que toi tu désires, voire en lui, afin de nous bénir de ta bénédiction, et maintenant et à tous. Amen. Si vous demandez autour de vous à une personne que vous rencontriez, qu'est-ce que c'est que l'Église? Je suis sûr que vous seriez étonné par les réponses que vous obtiendriez. Qu'est-ce que c'est que l'Église? On vous dira, mais quelle Église? Bien sûr, si vous êtes dans un pays catholique, on vous dira, bien, l'Église, c'est l'Église catholique romaine. Si vous êtes dans un pays protestant, on vous dira, mais l'Église, c'est l'Église réformée. Si vous êtes né dans un pays d'origine allemande, on vous dira, mais l'Église, c'est l'Église luthérienne. Ou si vous êtes né dans un pays où Calvin a une grande influence, on vous dira, mais oui, l'Église, c'est l'Église calviniste. En Angleterre, on vous dira, mais c'est l'Église anglicane. Et vous êtes un peu dans la confusion. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'Église? Je ne parle pas de ceux qui, quand on leur dit, on leur parle d'Église, ils vous montrent une bâtisse. Cherchez l'Église, ben la voilà. Et c'est un édifice de pierre. Ça peut être une cathédrale, ça peut être un temple, et pour certains, ça peut être la salle évangélique, la chapelle où ils se rassemblent. Alors, nous allons oublier tout cela, toutes ces réponses que nous pourrions avoir, et nous allons nous mettre à l'écoute de l'Écriture. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Puisque c'est à l'écoute de l'Écriture, notre fin de semaine. C'est ça le grand thème. Bien, vous constaterez que le mot « Église » ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire depuis la Genèse jusqu'à Malachie, vous ne trouverez pas le mot église. Et la première fois que vous trouvez la mention de l'église, c'est sur les lèvres de Jésus. Au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu. Alors nous allons écouter simplement ce que nous a dit Jésus au sujet de cette église et essayer de comprendre. Nous sommes donc en Israël, un lieu que je connais bien, à Bania, c'est Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain, au pied du mont Hermon. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, qui s'appelle aujourd'hui Bania, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Les disciples, évidemment, avaient été envoyés par Jésus dans toutes les villes de Judée, de Galilée, et ils avaient annoncé l'évangile que Jésus leur avait confié, Et ils avaient entendu ce que les gens pensaient de Jésus. On parlait beaucoup de Jésus dans les 3 années de son ministère, car il avait réuni des foules nombreuses, jusqu'à 5000 personnes, qui se déplaçaient pour venir écouter Jésus de Nazareth. Alors, les disciples répondent à la question de Jésus. Tiens, voilà, on dit de toi que tu es Jean-Baptiste, ressuscité. D'autres disent que tu es Élie, le prophète, qui avait été enlevé dans le ciel et qui serait revenu. Et puis d'autres disent que tu es Jérémie, cet homme qui a écrit ce livre, qui est le deuxième des prophètes. Après Ésaïe vient Jérémie, et qui avait laissé un souvenir dans le peuple d'Israël. Alors tout à coup, Jésus leur dit, mais vous, mes disciples, qui êtes autour de moi, qui dites-vous que je suis? Et peut-être que le Saint-Esprit vous pose à vous-même, qui avez participé à cette retraite de février 82, vous maintenant, est-ce que vous avez une idée réellement sur Jésus-Christ? Qui est-il pour vous? Qu'est-ce que Jésus-Christ est pour vous en 1982? Qui dites-vous que je suis? Vous. C'est facile de dire ce que les autres pensent de Jésus. Mais vous, personnellement, en ce moment, que pensez-vous du Christ? Alors, c'est l'apôtre Pierre, comme je l'ai mentionné ce matin, qui spontanément s'est écrié « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 7. Donc, celui qu'avait annoncé les prophètes, ce Seigneur dont parlait tout l'Ancien Testament et qui apporterait la délivrance dans ce monde. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ce que tu viens de le dire, tu ne l'as pas trouvé tout seul. Tu ne l'as pas sorti de ton cœur charnel. C'est vraiment par une inspiration qui te vient de mon Père des cieux que tu viens de me confesser comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est mon Père qui te donne de dire cela. Ça, c'est une vérité qu'on peut appeler ex cathedra, c'est-à-dire une vérité infaillible. Elle ne venait pas du cœur de Pierre, Pierre était seulement l'instrument, le confesseur du Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors, le Seigneur souligne, tu es heureux, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ou littéralement sur ce roc, je bâtirai mon église. Voilà la première fois que vous trouvez le mot église dans le Nouveau Testament. Et c'est de la bouche de Jésus. Et il dit qu'il va bâtir son église. Donc, est-ce qu'elle est déjà bâtie au moment où il part? Non. Il en parle comme quelque chose de futur. Je bâtirai mon église. Et il ajoute que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il ajoute encore, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il le recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il voulait vraiment que la foi des disciples et des âmes repose sur un fondement solide et non pas sur une espèce de propagande que l'on ferait pour lui. Nous pouvons demander maintenant à l'apôtre Pierre, mais comment est-ce que tu as compris cette parole, toi? Quand Jésus t'a dit « Tu es Pierre », Et sur ce roc, sur cette pierre, c'est un jeu de mots que Jésus a fait. Je bâtirai mon église. Est-ce que tu as compris que l'église que Jésus allait bâtir, qu'il allait la bâtir sur toi-même? Comment as-tu compris la chose? Je trouve que c'est le meilleur moyen pour être au clair, de demander à Pierre, mais toi, qu'est-ce que tu as compris quand tu t'as dit ça? Alors, vous avez vu ce matin que l'apôtre Pierre, quand on lui demande dans le livre des Actes, au chapitre 3e, au 4e, on lui demande par quelle autorité, par quelle puissance il a pu guérir le boiteux de la belle porte, il leur dit ceci. Sachez tous, verset 10 du chapitre 4, et tout Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en santé devant vous. Jésus est quoi? La pierre. Rejeté par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Et il ajoute, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui soit donné aux hommes par lequel il nous fallait être sauvés. Donc, Pierre confesse que ce n'est pas lui-même qui est la pierre, c'est sa confession de foi, ce qu'il a dit, c'est le rocher, que le Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est sur la confession de foi de Pierre que l'Église est bâtie. Sur ce roc, sur ce que tu viens de dire, Pierre, que je suis le Fils du Dieu vivant, c'est sur ce roc-là, sur ta confession, que je bâtirai mon église. Et pour vous donner encore plus d'assurance, on va demander à l'apôtre Pierre s'il a changé d'idée au cours des âges. Hein? Dans son épître qu'il a écrit vers la fin de sa vie, l'apôtre Pierre nous parle de cet édifice qu'est l'église. Et que dit-il? Dans la première lettre de Pierre, qui se trouve donc après celle de Paul, après celle de Jacques, après l'épître aux Hébreux, vous avez les deux épîtres de Pierre qui précèdent celle de Jean, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement, si vous n'avez pas encore beaucoup l'habitude de vos Bibles. Alors, dans le chapitre 2 de cet épître de Pierre, nous lisons verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, quoi? Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » Donc, croire en cette pierre, c'est croire en qui? En Jésus-Christ, que l'apôtre Pierre a confessé. Et quand vous avez la foi de Pierre, vous devenez vous-même une pierre. Le Christ est la pierre angulaire. Disons que Pierre est la première pierre sur la pierre. Et puis, chacun de vous, si vous croyez à la confession de Pierre, vous êtes une pierre dans cet édifice. Autant il y a de croyants, autant il y a de pierres. Mais des pierres vivantes, et c'est un édifice spirituel qui croit. Voilà comment l'apôtre Pierre a compris la parole du Seigneur. Et j'étais un jour à Jérusalem dans la bibliothèque des pères dominicains à Saint-Étienne de Jérusalem, et j'ai fouillé tous les livres des théologiens catholiques et j'ai cherché ce qu'ils disaient sur la pierre. Et je n'en ai pas trouvé un qui ne dise exactement ce que je vous enseigne ici. Le Christ est la pierre angulaire. Pierre est une des premières pierres et chaque croyant est bâti sur cette pierre. Alors donc, l'Église de Jésus-Christ, c'est donc l'Église du Seigneur, mais qui est aussi l'Église de Pierre, mais qui est aussi l'Église de Paul, l'Église de Jean, l'Église de Jacques. Il n'y a qu'une Église, c'est celle du Seigneur. Les apôtres sont les premières pierres de fondation de l'édifice, sur la pierre angulaire, et tous ceux qui ont cru par l'enseignement des apôtres sont devenus des pierres dans l'édifice. Alors, est-ce que vous êtes une pierre dans l'édifice que le Saint-Esprit est en train de construire au travers des âges? Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur disait seulement qu'il bâtirait son Église? Il ne pourrait la bâtir qu'après sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi l'Église du Christ a commencé son existence après la mort et la résurrection du Seigneur. Jusque-là, le peuple de Dieu, celui qui avait la responsabilité d'apporter le témoignage divin au monde, c'était qui? C'était le peuple d'Israël. C'était le peuple juif que Dieu s'était choisi. J'essayerai de faire une conclusion où je remettrai tout cela ensemble. Dieu s'était choisi ce peuple. Il lui a confié une mission dans le monde païen, mais hélas, quand le Christ est venu, ce peuple qui aurait dû l'accueillir comme son Messie, ne l'a pas reconnu, l'a rejeté selon tout ce qui était dit dans les Écritures, mais en le rejetant, sans le savoir, ils ont accompli un dessein de Dieu qui a voulu nous prouver son amour en nous donnant ce sacrifice du Christ pour nous racheter de tous nos péchés et nous montrer que même si la méchanceté de l'homme va jusqu'à vouloir tuer Dieu, quelle est la réponse de Dieu à ces assassins qui veulent le tuer, qui veulent s'en débarrasser, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient romains, parce que les romains étaient là, les juifs l'ont livré et les Romains l'ont crucifié. Il a été crucifié par les mains d'hommes iniques. Donc c'est faux de dire que ce sont les Juifs qui l'ont crucifié. Les Juifs ont livré Jésus, mais ceux qui l'ont crucifié, ce sont les Romains. Donc nous, païens, d'origine païenne, nous sommes tout aussi responsables du crucifiement de Jésus que les Juifs. Juifs et Romains qui se haïssaient, ils se sont mis d'accord, Pilate, Hérode et les principaux sacrificateurs juifs se sont mis d'accord pour livrer le Saint et le Juste et pour le crucifier. De sorte qu'il est prouvé que l'humanité tout entière, si elle le pouvait, est capable de tuer Dieu. On veut voir Dieu, mais une fois qu'on le voit, on ne peut pas supporter sa présence. il devient un gêneur, hôte, hôte, crucifie-le. Et on préfère vivre dans les ténèbres que vivre dans la lumière, car Jésus s'est présenté comme la lumière du monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. De sorte que, après la crucifixion, Dieu aurait pu anéantir l'humanité qui avait montré jusqu'où elle allait. Non seulement l'humanité transgresse les lois naturelles, c'est ce qui arrive aux païens parce qu'ils ont une conscience. Les païens n'écoutent pas la voix de leur conscience. La conscience de Pilate lui disait « Cet homme est injuste ». Sa femme lui disait « N'ayez rien à faire avec ce juste ». Il fait taire sa conscience et voulant plaire aux foules, il livre Jésus pour être crucifié. Donc, faillite de la religion de la conscience. Les païens se glorifiaient, nous avons notre conscience pour Dieu. Eh bien, on fait taire sa conscience. Faillite de la religion de la loi. Le juif disait, nous avons les oracles de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu. Nous avons les 10 commandements. Eh bien, quand ils ont vu un homme qui était irréprochable sur tous ses commandements, et un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, c'était là l'amour de Jésus pour le Père, et un homme qui aimait son prochain comme lui-même, quand ils l'ont vu, ils ont voulu s'en débarrasser. Voilà ce qui prouve la méchanceté du cœur de l'homme. Et alors, l'amour de Dieu éclate à ce moment pour tous ces coupables, pour toutes ces âmes juives ou d'origine païenne qui sont coupables du crime de Golgotha. Dieu dit, je vous fais grâce. Je vous fais grâce. Et alors, qui sera sauvé? Ceux qui acceptent cette grâce. Ceux qui acceptent cette grâce. Et pour bien montrer que le ciel est d'accord, quand Jésus ressuscité est remonté dans la gloire d'où il était venu, 10 jours après, qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? La Pentecôte. Le Seigneur est remonté le jour de l'Ascension dans le ciel, et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu sur ces 120 individus qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé là? C'est là qu'il y a eu historiquement ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, selon la prophétie de Joël, a été envoyé et a baptisé dans un seul corps ces individus. Jusque-là, les 120 étaient des individus isolés. Oh, ils ne se sentaient pas du même corps. Ils se jalousaient. Lisez les évangiles et vous verrez les disputes qu'il y avait entre les disciples pour savoir lequel serait le plus grand. Depuis la Pentecôte, vous voyez ces 120 qui avaient été unis, baptisés dans le Saint-Esprit et qui forment désormais un seul corps. Ce ne sont plus des individus isolés, c'est l'Église qui est fondée. Historiquement, l'Église de Jésus-Christ a commencé à la Pentecôte, où il y a eu le baptême du Saint-Esprit, c'est historique, et le Saint-Esprit est désormais dans l'Église. Alors maintenant, je vais aller plus loin pour vous expliquer ce que veut dire le mot « Église ». C'est un terme grec qui est composé de deux mots « ek » et « kaleo », »,« ecclesia », »,« ek », »,« les appeler hors de ». Voilà ce que ça veut dire. Littéralement, l'Église, c'est des gens qui ont été appelés hors de quoi? Ils ont été appelés les uns du judaïsme, ils sont sortis du judaïsme, le Saint-Esprit les a sortis de leur religion traditionnelle, Et puis, les autres ont été sortis du paganisme. Appelés hors du paganisme, ils entendent ainsi l'évangile, ils se convertissent à Christ. Qu'est-ce que c'est se convertir ? C'est se détourner de la voie que l'on suivait pour suivre une voie nouvelle. C'est pas changer de religion, c'est changer de direction, c'est changer d'orientation. Quand vous m'entendez parler de conversion, ne pensez pas que je suis un homme qui vous dit de changer de religion. Parce que si vous changiez simplement de religion, c'est comme si vous changiez de chemise. Vous-même ne seriez pas changé. Ce qui compte, quand on parle de conversion, c'est que vous saisissiez que jusqu'à présent, vous suiviez vos propres voies, mais vous rencontrez Jésus sur votre chemin et vous faites une conversion, c'est-à-dire un demi-tour, et vous allez avec lui. Changement de vue, changement d'orientation, changement de direction. Et vous devenez une brebis de ce seul troupeau dont le grand pasteur est qui ? Jésus-Christ. Alors maintenant, vous pourrez trouver dans les Épîtres un développement au sujet de tout ce qui est dit de l'Église. Il en est parlé à plusieurs reprises. Dans ses relations avec le Père Céleste, avec Dieu le Père, l'Église est envisagée comme la famille de Dieu. Voilà ce qu'est l'Église. Depuis que Jésus est venu, qu'il a fondé son Église par sa mort et par sa résurrection, le jour de la Pentecôte, en baptisant en un seul corps les premiers croyants, qu'on n'appelait pas encore des chrétiens, ces croyants qui confessaient ce que Pierre avait dit, que Christ était le Fils du Dieu vivant, eh bien, depuis ce jour, le Seigneur ajoute, chaque fois que l'Évangile est annoncé et qu'une âme se convertit, le Seigneur ajoute à son Église ceux qui doivent être sauvés. Alors, dès que vous croyez au Seigneur Jésus, nous l'avons lu, à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qui arrive ? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, l'Église, dans ses rapports avec le Père Céleste, c'est la famille de Dieu. Alors, si vous êtes de la famille de Dieu, qu'est-ce que vous êtes les uns pour les autres ? Des frères et des sœurs. Tout ça, il faut se l'accorder. Hein. Nous sommes des frères et des sœurs et nous n'avons pas à avoir peur de nous le dire. Si vous avez reçu Jésus, vous êtes enfants de Dieu. Et les enfants d'un même père, je dis souvent, ne sont pas des cousins. Ce sont des frères. Et puis ne dites pas non plus frères séparés. Tout ça, c'est faux. Hein. Nous sommes des frères. Et nous voulons manifester que nous sommes unis dans le Père Céleste. Nous invoquons le même Père. Maintenant, je prends un second point. Dans ses relations avec le Fils, l'Église, dans tout le Nouveau Testament, est comparée à un corps humain, à un corps dont Christ est la tête. Avec le Père, c'est la famille de Dieu. Avec le Fils, l'Église, c'est son corps. C'est son corps. Le Christ est la tête glorifiée dans le ciel. Et tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tous ceux qui acceptent la confession de Pierre, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, se trouvent incorporés à son corps. Par la foi, dès l'instant où vous croyez que Jésus et le Christ, vous devenez membre de quoi ? D'une association culturelle ? Non, membre du corps de Christ. Non pas membre d'une organisation terrestre, mais membre d'un organisme dont la tête glorieuse est dans le ciel et dont les membres sont liés les uns aux autres, comme les membres de mon corps, et liés gouverné directement par la tête. Est-ce que c'est ma main qui commande à mon pied? C'est la tête, n'est-ce pas? Alors, chaque membre, chaque individu doit comprendre qu'il est gouverné par la tête. Vous devez être dirigé par la tête, par la pensée du Christ. C'est cela qui se passe dans le corps de Christ. Alors, ce corps est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Mais tout ce qui est dit du Christ, de sa tête glorieuse, devient vrai pour un membre. Quand vous souffrez, c'est comme si Christ souffrait. Vous avez communion avec lui, il a communion avec vous. Il y a une relation intime entre les membres et la tête. Et puis il y a aussi une relation entre les membres du corps de Christ. Vous avez cela dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens. Il est dit, si un membre souffre, tous les autres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. C'est ce qui devrait exister. Quand j'ai une blessure à mon bras gauche, c'est tout mon corps qui souffre. C'est naturel. Et si je puis beaucoup travailler avec ma main droite, je ne peux pas dire « je n'ai pas besoin de ma main gauche ». Si j'écris avec ma main droite, c'est très bien, je dis « j'ai pas besoin de ma main gauche ». Mais le jour où je dois lever cette table, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis très content d'avoir ma main gauche. Alors comprenez-le, dans le corps de Christ, nous avons tous besoin les uns des autres. Voilà le corps du Christ. Ce corps, c'est justement ça l'Église. Ainsi est l'Église. L'Église qui est son corps, nous dit l'Écriture. Vous voulez savoir ce que c'est que l'Église? Bien, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ, il est composé de la tête et de ses membres. La tête est dans le ciel. Les membres, eh bien, il y en a qui sont déjà endormis en Jésus, ceux qui sont morts dans la foi. Et puis, il y en a d'autres qui sont vivants sur la terre. Et quand le corps sera arrivé à sa plénitude, eh bien, il est dit que le Seigneur le ravira dans la gloire. Et pour la première fois, la tête et les membres seront vus dans leur unité visible. Et rien ne pourra empêcher cela. Il est dit que les portes du séjour des morts ne pourront pas détruire l'Église en tant que corps du Christ. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait une troisième image qui présente l'Église. C'est celle que j'ai lue dans l'Épître de Pierre. Dans ses relations avec le Père, c'est la famille de Dieu, l'Église. Dans ses relations avec le Fils, c'est le corps de Christ. Dans ses relations avec le Saint-Esprit, c'est un temple. Un temple de pierre dont Christ est la pierre angulaire, les apôtres les premières pierres, et au cours des siècles, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui se sont confiés dans le nom de Jésus, sont devenus des pierres vivantes dans l'édifice. De sorte que l'Église est dans le monde, mais n'est pas le monde. Vous devez bien sentir cela. Et le Saint-Esprit qui est dans l'Église et qui travaille dans le monde, le Saint-Esprit n'a pas pour tâche, pas plus que nous les chrétiens, d'essayer de convertir le monde entier. Le monde entier ne sera pas converti par la prédication de l'Évangile. Vous pouvez même multiplier les émissions radiophoniques et les émissions de télévision dans l'idée que vous allez remplir le monde de l'Évangile, le monde ne se convertira pas par la prédication de l'Évangile. Est-ce que vous le savez? Vous allez dire, mais alors, non. Désillusionnez-vous. Nous n'allons pas vers la conversion du monde. Nous allons vers le jugement du monde.
Mais ceux qui se trouvent dans ce monde, mais qui ne sont pas du monde, ceux qui ont renoncé au monde et qui ont accepté Jésus, le Fils du Dieu vivant, seront ravis soudainement, ensemble, pour aller à la rencontre de Jésus sur les nuées. C'est là l'espérance glorieuse de l'Église. Le monde ne va pas vers sa conversion, il va vers le jugement. Et alors, pour le monde, qu'est-ce qui finira par établir la paix entre les peuples et entre les nations? C'est le retour du Seigneur avec son Église, avec les siens, qu'il aura formés finalement dans le ciel pour être les administrateurs de son royaume. Voilà pourquoi il est tellement important que vous vous convertissiez, pour que déjà sur la terre, le Seigneur puisse vous former, vous préparer, en vue de l'administration de son royaume. Vous avez une tâche après votre mort, si vous devez mourir. Vous avez une mission pour laquelle le Seigneur vous prédestine. Donnez votre cœur au Seigneur. Et alors, au lieu de voir votre avenir se terminer par la tombe, vous verrez tout un avenir de gloire, un avenir éternel devant vous, le Seigneur vous donnant une part de responsabilité dans l'administration de son royaume, si vous avez été fidèle dans les petites choses. C'est le sens de toutes les paraboles. Le Seigneur vous confie maintenant des responsabilités sur la terre. Si vous l'écoutez et si vous êtes fidèle à ses commandements, eh bien le Seigneur vous distingue et vous prépare une place dans l'administration de son royaume. Vous n'êtes pas sauvé simplement pour mourir en paix, mais vous êtes sauvé parce que le Seigneur aura besoin de vous dans son règne. Et vous savez, quand on connaît le règne que le Seigneur apportera, on aime dire que ton règne vienne, parce que vous êtes concerné par ce règne. Régnez sous la direction du Christ. Vous savez, c'est difficile d'être dans les affaires aujourd'hui quand on est dans le monde, parce qu'il y a un tas de gens qui sont tordus. Vous voulez vivre votre droit chemin, vous voulez être honnête, mais vous êtes pris dans un engrenage. Tous ne sont pas honnêtes. Et même ceux qui sont à des postes plus élevés que vous, vous poussent à faire des fois des choses que vous ne voudriez pas. C'est pourquoi on est sous un joug, on est dans la souffrance, bien souvent. Mais un jour, quand le Seigneur règnera, quand il y aura sur la terre un gouvernement juste, vous règnerez avec lui et vous serez les administrateurs de son royaume. Oh, que le Saint-Esprit lui-même puisse prolonger ces quelques lignes que j'essaye de vous montrer pour que vous ayez cette sainte ambition. C'est pas juste être sauvé pour pas aller en enfer, c'est être sauvé pour pouvoir servir le Seigneur. Et quand il reviendra, il pourra régner. Et qu'il puisse vous dire, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans ce qui est très petit, et bien je t'établis sur beaucoup. Mais vous devez faire vos preuves, maintenant. Alors, recevons le Seigneur. Nous sommes donc dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Maintenant, l'Église, dans ses relations avec le monde, elle est appelée la maison de Dieu, dans sa responsabilité, comme témoignage, puisqu'elle remplace cette Église, le peuple d'Israël, qui a été mis à l'écart pour un temps, puisqu'il n'a pas suivi le Seigneur, puisqu'il l'a rejeté, puisqu'il n'a pas voulu de lui, à part un petit résidu, et qui a été sauvé, car les apôtres étaient tous des justes. Ils étaient tous des justes. Donc, il y a eu une part d'Israël qui a été sauvée par le témoignage des Juifs. Mais le peuple l'ayant rejeté, le peuple est mis de côté et la responsabilité du témoignage depuis bientôt 2000 ans a été confiée à qui ? À l'Église. À l'Église. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, selon toutes les prophéties et les paraboles que Jésus avait annoncées, c'est que l'Église, comme responsable sur la terre du témoignage à rendre à Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle aussi, en tant que maison de Dieu. Mais au début, cette maison de Dieu était fidèle après la Pentecôte. Et ne formaient, n'étaient gens de cette maison que ceux qui avaient cru. Et quand on se convertissait après la Pentecôte, qu'est-ce qui risquait de nous arriver ? La persécution. Les Juifs qui se convertissaient étaient rejetés du judaïsme et les païens qui se convertissaient étaient rejetés du monde païen et persécutés par le monde païen. De sorte qu'au début, l'Église a été fidèle tant qu'elle était persécutée. Et vous connaissez, je ne vais pas m'allonger sur les persécutions de l'Église. Vous savez, la persécution, c'est jamais une menace pour l'Église. Le diable a cru qu'il allait noyer ce témoignage dans le sang. Mais le sang des martyrs a été une semence. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Quand sous Néron, au Colisée à Rome, les croyants mouraient, déchirés par les lions, ou brûlant comme des torches vives dans les jardins de Néron, eh bien, les païens, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Et c'est là que les païens se sont convertis en grand nombre, par l'exemple de ces hommes qui préféraient mourir que de renier leur foi. De sorte que la persécution a été une semence. Et malheureusement, vers l'an 312, quand l'empereur Constantin, qui contrairement à ses prédécesseurs persécutait les chrétiens, eh bien cet empereur s'est converti. On n'est jamais très sûr de la réalité de sa conversion, mais au cours d'une bataille, il a eu une vision et il aurait vu une croix. Et il aurait entendu une voix qui lui disait, c'est par cette croix que tu vaincras. Alors il a dit, bien, si j'ai la victoire, je me convertis au Christ et j'impose le christianisme comme religion dans tous mes états. Et il a eu la victoire. Et au fond, malheureusement, ce que Constantin n'avait pas compris, c'est qu'on ne peut pas faire d'un peuple païen un peuple chrétien. Comprenez-vous ? Vous pouvez décréter que maintenant tous sont chrétiens. Est-ce qu'ils le sont ? C'était tous des païens. Vous pouvez dire, mais maintenant on va tous vous baptiser. Et vous serez chrétiens ? On peut vous verser une quantité d'eau remarquable, on peut même vous immerger complètement. Ce n'est pas votre immersion qui fera de vous un chrétien. Ce n'est pas la quantité d'eau que vous avez reçue à votre baptême qui fait de vous des chrétiens. Que ce soit quelques gouttes ou que ce soit l'immersion totale, bien sûr que baptiser veut dire littéralement immerger et que dans l'Église primitive, ceux qui croyaient témoignaient dans le baptême de leur foi. Et qu'est-ce que voulait dire leur foi ? Ils témoignaient qu'à leur vie passée, avant leur conversion, ils avaient renoncé. Qu'ils étaient morts à leur vie passée. Et que comme Jésus était mort et avait été enseveli, eux aussi croyaient que dans le Saint-Esprit, ils avaient été identifiés au Christ dans sa mort en tant que pécheurs, mais que comme Christ était ressuscité, ils ressortaient de l'eau, image d'une vie nouvelle. Le baptême était le signe de leur foi. Comprenez-vous ? Le baptême ne précédait pas leur foi. Mais suivaient leur foi. le baptême était, comme le dit Saint Pierre, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors le baptême était dans l'Église primitive l'occasion de témoigner publiquement de sa foi. Voilà, j'étais païen ou j'étais juif jusqu'à présent, mais maintenant j'ai rencontré Jésus-Christ et je suis membre de son corps. Je suis identifié à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Alors, au début, donc, je le disais, il n'y avait pas de différence entre Église et chrétienté. Ce qu'on appelait la chrétienté, c'était des vrais chrétiens. C'était des gens qui s'étaient réellement convertis au Seigneur. Mais après la conversion de Constantin, quand Constantin a voulu christianiser tous ses États, eh bien, on a donné le baptême à tous, et ensuite, il suffisait de naître physiquement, dans un état de Constantin, pour être chrétien. On était chrétien par tradition, par éducation, par naissance, mais on n'était pas par une nouvelle naissance. Et c'est là que le désordre a commencé dans ce qui devait être la maison de Dieu. Vous avez un chapitre magistral dans l'épître de Timothée au chapitre 2e, où il est dit que la maison de Dieu est devenue une grande maison. Et que, comme dans une grande maison, il y a des vases d'or, d'argent, de bois, de terre, les uns pour un usage à honneur, d'autres pour un usage vil, eh bien, dans l'Église, il s'est infiltré toute espèce de personnes, oui, qui sont baptisées, qui portent le nom de chrétiens, mais qui ne sont pas des vases à honneur. Quand vous regardez ce que contient ces vases, quand vous voyez ces vases, eh bien, ce sont des vases vils. Et il sera demandé aux vrais croyants de savoir se séparer de ceux-ci. Donc, il faut distinguer entre ceux qui portent le nom de chrétien, ce qu'on appelle maintenant la profession chrétienne. Une foule de gens sont baptisés. Ici au Québec, les gens qui sont en prison, est-ce que ce sont des noms baptisés dans nos pays de chrétienté? Tout le monde est baptisé. Tout le monde porte le nom de chrétien. Mais est-ce qu'ils sont réellement des vases à honneur? Ils sont devenus des vases vils. Et moi aussi, de naissance, je suis un vase vil. Pour que je devienne un vase à honneur, il faut que je change de nature. Et cette nature, ce n'est pas ma nature améliorée, c'est une nouvelle nature. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau, nous donne une nouvelle nature qui a d'autres goûts, d'autres aspirations. Vous voyez, je l'ai dit souvent parce que c'est Saint-Pierre qui nous montre cela. Une truie, vous savez ce que c'est? Un cochon, mais disons femelle. Vous pouvez la laver. Est-ce qu'elle est, elle n'est plus truie une fois qu'elle est lavée? Une truie lavée, dit Saint-Pierre, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est bien lavée. Vous la sortez, elle rencontre un bourbier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se vautrer dans le bourbier, les truies. Elle ne peut pas faire autrement. Elle n'a pas changé de nature, vous l'avez lavée. Puis le chien, il est dit, il retourne à ce qu'il a vomi. Le chien reste chien. Tandis que le vrai croyant, il devient quoi? J'ai pu être truie, j'ai pu être chien, tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'on croit, comment est-ce que le Seigneur nous appelle? Mes petits chiens? Mes petites truies? Il nous appelle? Ses brebis. Mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent. Elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Quand vous acceptez Jésus, vous devenez une brebis du bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour qui? Pour ses brebis. et vous devenez des siens. Et c'est cela qui est merveilleux. Aujourd'hui, en 1982, c'est le grand mélange. L'unité de l'Église qui a été visible un temps, ben, l'unité de l'Église dans le monde, elle est perdue. Il n'y a pas une église qui serait vraiment unie en face d'églises divisées. On ne peut pas même dire cela de l'église romaine, que l'église romaine serait la seule église unie. Ce n'est pas vrai, parce que quand il y a une guerre, vous voyez les prêtres français qui bénissent les canons, et qui vont frapper les Allemands, et les prêtres allemands qui bénissent les drapeaux de l'Allemagne. Et on a la même religion. Mais la même religion ne fait pas l'unité spirituelle. Tandis qu'on peut être de langues différentes, on peut être de nationalités différentes. Dans l'Église, on peut être de sexe différent, mais dans l'Église, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, il y a les rachetés du Christ. De sorte qu'aujourd'hui, font partie de l'Église qui? Ceux qui croient au Seigneur Jésus. Et il y en a dans l'Église catholique romaine des gens qui croient vraiment au Seigneur Jésus. Il y en a dans le protestantisme et il y en a dans l'Église orthodoxe. Et nous n'avons pas le droit de nous juger les uns les autres. Si l'on ressent en rencontrant une âme qu'elle est habitée par le Seigneur, je ne m'intéresse pas à son étiquette religieuse ou à sa religion de naissance, mais je cherche vraiment à lui manifester mon amour fraternel. Et si nous n'avons pas tous le même degré de connaissance, nous devons essayer de nous apporter les uns aux autres ce que nous avons reçu du Seigneur. Et toute âme qui est dans le Seigneur et qui vit avec le Seigneur et qui vit pour le Seigneur est une âme qui m'apporte une édification. Elle est membre du corps de Christ et je sens qu'elle m'apporte quelque chose, qu'elle est à moi comme moi je suis à elle. Voilà les relations nouvelles que nous pouvons encore connaître aujourd'hui. Ne devenez jamais sectaire. Oui, l'Église a perdu son unité visible. Pour quelle raison? Parce qu'elle a été infidèle à son Seigneur. Comme Israël a été infidèle à son Seigneur. L'Église, une fois qu'elle est devenue en quelque sorte majeure, qu'elle n'a plus été directement persécutée, elle a cru qu'elle devenait une puissance et elle a voulu devenir une puissance temporelle. Elle s'est mêlée de politique et c'est cela qui a corrompu l'Église. La corruption est entrée dans l'Église, maison de Dieu, ça a été le mélange, et alors, il y a eu, eh bien oui, il y a 4 siècles et demi, 5 siècles, ce qu'on a appelé la Réformation, et qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était des catholiques qui demandaient au pape de revenir à l'Évangile, tellement ils étaient outrés de ce qui se faisait au nom du Seigneur. Ils ne voulaient pas sortir de l'Église, ils ne voulaient pas être schismatiques, mais ils demandaient une réforme de l'Église. Alors on les a appelés protestants. Ils protestaient au nom de la vérité, c'était les catholiques. Et au lieu d'examiner leurs requêtes, comme ce n'était pas le pape Jean XXIII qui aurait certainement examiné ces requêtes, et qui aurait cherché à amener un renouveau, eh bien, on les a excommuniés. Et alors, ces gens, excommuniés, persécutés, dans la persécution, ont voulu devenir fidèles à la parole de Dieu, et se sont accrochés à la Bible. De sorte que ce que la Réformation a apporté à l'Église, c'est la Bible. Certes, les catholiques l'avaient déjà, la Bible, mais au moment de la Réformation, il y a eu une invention fantastique, c'était l'imprimerie. Et alors ça a permis à ces écrits qui n'étaient que dans les couvents et qui n'étaient lus que par des prêtres, et Luther était un prêtre, un moine, eh bien par l'imprimerie, par les traductions qu'on a fait en langue vulgaire, c'est au fond Luther qui a fixé l'allemand, par sa traduction, la Bible, la parole de Dieu, a été connue par le peuple. Puis alors, il y a eu toutes ces tensions, ces guerres de religion. Mais au moment de la Révolution française, quand on a décrété la liberté de conscience, et nous sommes heureux qu'il y ait la liberté de conscience, mais le protestantisme a été admis, n'a plus été persécuté, et qu'est-ce qui est arrivé au protestantisme? Une fois qu'il n'était plus persécuté, il a dévié lui aussi, et il est tombé dans le rationalisme. On ne croyait plus que ce qui était convenable à notre raison, et c'est ainsi que la foi s'est de plus en plus perdue aussi dans le protestantisme, de sorte que si je nais dans une famille protestante, je ne suis pas plus sauvé que si je nais dans une famille catholique. Il faut, quel que soit le lieu de ma naissance, que je passe par la nouvelle naissance. Alors, de ce protestantisme est sorti tous ces milieux qu'on appelle des sectes, tous ces groupes qui ont de nouveau protesté dans le protestantisme pour qu'on revienne à la parole de Dieu, et c'est ce qu'on a appelé les mouvements de réveil que nous avons eu au siècle dernier, et d'où sont issus ce qu'on appelle les assemblées évangéliques, où l'on a cherché à revenir à la simplicité du Christ jusque dans la table du Seigneur, jusque dans l'Eucharistie. Et je termine maintenant en disant que l'Église, si elle est la famille de Dieu, si elle est le corps de Christ, si elle est le temple du Saint-Esprit, si elle est la maison de Dieu, mais où il faut savoir se séparer de ce qui est impur, des vases vides, et si nous devons rechercher la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, et il y en a partout, eh bien voilà mes frères, voilà ceux avec lesquels je désire marcher, voilà ceux avec lesquels je désire communier, eh bien, dans son attente, cette Église, quelle est son espérance? Quelle est son espérance? Le retour de Jésus. L'Église, dans son attente du Seigneur, elle est considérée comme l'épouse de Christ. Voilà le cinquième point. L'épouse de Christ. Une épouse que Jésus s'est fiancée et qu'il va introduire bientôt dans la gloire. Alors, comme fiancée du Christ dans ce monde, l'Église dira non aux pressions du monde parce qu'elle a déjà dit oui à qui? Au Seigneur. Êtes-vous fiancé au Christ? Si vous êtes fiancé au Christ, vous dites non aux tentations que vous offre le monde. Vous dites non à ces convoitises parce que vous avez dit votre oui, comme Marie, la mère bénie de notre Seigneur, a dit son oui au Seigneur. Eh bien, j'espère qu'à l'issue de cette rencontre, vous serez de ceux qui auront dit votre oui au Seigneur et qui comprennent maintenant ce que c'est que ce repas qu'il a institué pour le temps de son absence, la nuit où il fut livré. Jésus a pris quoi? Vous connaissez les textes? Il a pris du pain qui était sur la table, le pain de la Pâque. Il a pris du pain. Puis devant ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? En regardant le pain, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps. Qu'est-ce qu'il regardait quand il disait? Est-ce qu'il a dit ceci est mon corps? Ceci est mon corps. Vous comprenez sa parole? Qu'est-ce qui est son corps? Ce pain. Ce pain. Mais ce pain, pour devenir pain, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que ce pain est venu comme ça tout seul? Il y a eu d'abord un grain de blé. Et qu'est-ce que Jésus disait? Si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et qui était le grain de blé? Jésus. Et il a annoncé la nécessité de sa mort. Si je meurs, il y aura plusieurs grains de blé. Il y aura un épi, il y aura une moisson, il y aura l'Église qui naît de la mort de Christ. C'est pourquoi l'Église ne pouvait pas exister avant. Elle est née de la mort de Christ, comme l'épi est sorti du grain de blé. Et ensuite, ce blé qu'on a coupé sur les collines, on l'a broyé. Souvenez-vous du Seigneur, qui a été brisé pour nous. Et puis, il a été moulu. C'est devenu de la farine, et cette farine, on l'a pétrie avec l'huile, et puis, on l'a mis au four. Et il en est sorti un pain. Un seul pain. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain. Et comme il y a un seul pain, il y a aussi un seul corps. Mais le corps est composé de tous les membres. Tous les membres. Comme ce pain est composé de plusieurs grains de blé, mais qui sont maintenant unis ensemble. Oh, que la chaleur de l'amour de Dieu face de nous, non plus des grains isolés, des grains dans des écrins, mais face de nous de ces grains qui ont accepté la mort et qui ont accepté de passer par ce traitement pour que nous devenions réellement un seul corps. Alors Jésus disait, ceci est mon corps. Quelle simplicité. Jésus a dit d'autres paroles. Il dit, je suis le vrai sept. Quand Jésus dit, je suis le vrai sept, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites, Jésus, c'était un sept de vigne. Qu'est-ce qu'il était? Il prend une image pour nous montrer que si lui est le sept de la vigne, nous, nous sommes les sarments dans le sept. Et que nous recevons la vie du sept. Le sarment n'a pas la vie en lui-même. Le sarment reçoit la vie du sept. Mais si vous coupez le sarment, qu'est-ce qui arrive? Il sèche. Il faut que le sarment soit dans le sept pour qu'il puisse porter du fruit. Il faut que vous aussi, vous soyez dans le Seigneur pour que la vie du Seigneur puisse porter du fruit. C'est pas par vous-même que vous portez du fruit. Laissez la vie du Seigneur en vous. Alors Jésus a pris du pain. Et puis, comme il l'a dit, il l'a rompu. Et puis il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Comme Jésus a dit aussi, je suis la porte. Alors vous dites, Jésus c'est une porte? Non, je suis la porte, ça veut dire je suis une issue, l'issue par laquelle vous pouvez sortir ou par laquelle vous pouvez entrer pour vous réfugier. Vous n'avez pas à matérialiser, nous n'avons pas à chosifier. Jésus ne se laisse pas, comme le disait un père dominicain, encapsuler. Le corps du Christ, il est où? Dans la gloire. Mais ce pain qu'il a rompu un jour représente ce corps. Et quand je participe à ce repas, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Je communie réellement. Je dis que je communie de tout mon être à ce Jésus qui est vivant, qui est ressuscité et qui vient bientôt. Et qui a institué ces signes en disant, faites ceci en mémoire de moi. Et après le pain, il a pris une coupe sur la table et il a pris le vin de cette soirée. Le vin, et il remplit les coupes et il dit, buvez-en tous, ceci est mon sang. Alors, est-ce qu'il a changé magiquement le vin en sang? Non, il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Le vin, c'est le vin. Mais quand vous buvez à cette coupe de vin, à ce fruit de la vigne, vous confessez que vous avez réellement communion à sa vie. Le sang, dit l'Écriture, c'est la vie. Et voyez-vous, le drame, alors que nous devions manifester à la table du Seigneur l'unité du corps, le diable a réussi de faire que la Sainte Cène, l'Eucharistie, soit une occasion de division. Le catholicisme romain a voulu définir ce mystère, et ils ont le dogme de la transsubstantiation. Donc, ces substances seraient changées réellement en sang et en chair de Christ. Mais quand Jésus disait, si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, vous demeurerez réellement en moi. Est-ce que vous croyez que Jésus pouvait encourager l'anthropophagie ou la déophagie, comme quelqu'un l'a appelé? Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aime, vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce qu'on dit? Je te mangerai. Je t'aime tellement que je te mangerai. Manger, c'est aimer. Et boire, dans le langage du Seigneur, si quelqu'un a soif, disait Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Boire, c'est croire. Manger, c'est aimer. Alors, quel doux repas. Nous témoignons, et alors ça doit être vrai, quand on prend la communion. C'est pas simplement manger une hostie, parce que vous voyez, on a tout voulu simplifier, parce qu'on voulait faire les choses en vitesse et en grand. Eh bien, ce repas du Seigneur qui se faisait dans les maisons au début dans l'église primitive, maintenant se fait en grand, et comme on n'a pas assez de vin, maintenant on voudrait, dans beaucoup d'églises, remettre la coupe aussi, ça revient, cette coutume, parce que Jésus a dit, il n'a pas dit que c'était que le prêtre qui devait boire la coupe. Buvez-en tous, n'est-ce pas? Alors, il faut revenir à cela. Buvez-en tous. Mais, quand on fait cela, eh bien, on témoigne que l'on est uni vraiment au corps de Christ, que l'on discerne le corps de Christ, que je ne suis pas tout seul, hein. Je ne peux pas communier pour moi tout seul. Je communie avec vous. Nous communions les uns avec les autres. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul corps. En Christ, à la table du Seigneur, nous témoignons que nous sommes un seul corps, que nous ne sommes plus des gens divisés. Nous témoignons que nous sommes unis. Nous n'avons peut-être pas tous les mêmes vues sur un pont ou sur un autre, mais déjà, nous pouvons ensemble adorer le Seigneur. Et bien, c'est merveilleux. Moi, je viens d'un autre pays. Toi, tu es d'un autre pays. Tu as reçu une autre éducation. Mais nous avons rencontré Jésus. Et en Jésus, nous sommes devenus un. C'était bien sa prière. Hein. Qu'il soit un. Comme nous, nous sommes un. Bien, mes frères et sœurs, j'ai été bien faible au milieu de vous. J'ai senti toute ma faiblesse, toute mon impuissance. Mais si, dans ce moment, le Seigneur voulait révéler ce qu'il désire, cette manifestation de l'unité des croyants, eh bien, que son saint nom soit béni. Puissions-nous, au lieu de discuter théologie, être devant cette table du Seigneur et nous souvenir que la nuit il fut livré. Jésus a pris ce pain, puis l'a distribué entre eux, ses disciples, en disant, faites ceci en mémoire de moi. en mémoire de moi. Et quand on prend part à ce repas, on confesse simplement qu'on l'a vraiment reçu. On ne reçoit pas le Seigneur au moment où l'on prend l'hostie, où l'on prend l'Eucharistie, où l'on prend le pain, où l'on boit le vin. On témoigne que réellement on le prend parce qu'il est en nous. Et on confesse qu'il est en nous. Que nous l'aimons. Que nous l'attendons. Faites ceci en mémoire de moi. Et que je ne suis pas seul à l'attendre. Mais que tous ceux qui lui appartiennent, le Seigneur les connaît. Et je suis en communion avec l'Église universelle, avec tous ceux qui sont les siens. Le Seigneur les connaît. Et l'espérance de cette Église, c'est d'être un jour enlevé auprès du Seigneur. Parce que son témoignage, il est bientôt terminé. Nous sommes tellement handicapés par les iniquités qui se sont commises au nom de Jésus que nous sentons qu'il faudra des hommes nouveaux pour évangéliser encore le monde. Et ces hommes nouveaux, Dieu va les saisir une fois que l'Église aura été prise au ciel en convertissant les Juifs qui n'y croient pas maintenant. Et ce peuple qu'il avait mis de côté, il va le reprendre. Dieu va rentrer en relation avec ce peuple qui a déjà retrouvé sa terre, ce qui nous montre que nous sommes déjà avancés au point de vue prophétique. Dieu va sauver ces Juifs et en faire des hommes qui vont encore annoncer l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais comme ils seront nouveaux et comme ils seront terriblement persécutés et que beaucoup mourront martyrs, eh bien, le monde entier aura encore l'occasion d'entendre l'Évangile. Mais hélas, ceux qui l'ont entendu, ceux qui ont été chrétiens de nom et qui resteront sur la terre parce qu'ils n'ont jamais été membres de l'Église, corps du Christ, il est dit qu'il viendra sur eux une puissance d'erreur et ils croiront au mensonge, ce sera l'apostasie, parce qu'ils n'auront pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront au mensonge. Et vous le voyez aujourd'hui, hein, cette préparation, c'est l'Antichrist qui vient. Et ce sera un juif de nouveau. Ce sera un juif qui sera reconnu comme le Messie. Ah, ça sera le faux Messie. Il sera reconnu par son peuple. Puis tout à coup, il démasquera son visage. Et il persécutera ses propres frères, les Juifs. Alors que le vrai Messie était venu pour sauver les Juifs. Le faux Messie, il viendra pour le malheur des Juifs. Et ce sera un juif. Il viendra pour le malheur des Juifs. Et pour le malheur de ce qui s'appelle Église, mais qui n'en a que le nom et qui n'en a pas la vie. Eh bien, que le Seigneur vous incite à sonder les Écritures, alors vous saurez quel est son plan merveilleux pour l'Église, quel est son plan aussi pour les événements futurs. C'est par son règne, c'est par son apparition qu'il apportera la justice et la paix dans ce monde et qu'il établira la paix dans la vérité et que alors la terre tout entière sera délivrée de la servitude de la corruption à laquelle elle a été assujettie. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous incite à sonder les Écritures et ces vérités qui pourtant devraient être bien connues et qui vous ont peut-être paru à certaines nouvelles, bien que ces vérités, vous puissiez vous-même les découvrir dans l'Écriture et croire, non pas ce que je vous ai dit, mais croire personnellement ce que vous aurez entendu et ce que le Seigneur vous aura révélé. Amen.